C'est dans Jonas au chapitre 1 que nous sommes et que nous allons lire seulement les premiers versets pour s'introduire. Mais on va lire l'ensemble du chapitre parce que pour avoir le dernier point, je vous le dis, les deux premiers points, c'est juste les trois premiers versets. Il est supposé être allumé. Non, il n'est pas allumé. Excuse-moi, Josiah. OK. Je disais donc qu'on va lire les versets 1 à 3. Ça va être les deux premiers points du message. Le dernier, pour qu'on le comprenne bien, pour qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire de ce qui arrive dans les versets qui font toute la fin du chapitre, dans le fond. Mais on s'introduit avec les trois premiers versets qui sont très importants. Ça met la table, comme on dit. Je vais prier, puis ensuite on va regarder ensemble ces vérités précieuses. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffa. Il trouva un navire qui allait à Tarsis et paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Ô Seigneur, on vient à toi ce matin. Merci pour le livre de Jonas. Et comme on l'a dit tantôt, le livre de Jonas n'est pas premièrement par rapport à Jonas, mais par rapport à toi, qui se révèle dans la vie de Jonas à travers son ministère et à toute cette grande ville. Et Seigneur, il y a tellement de leçons, de richesses. C'est sûr qu'on ne peut pas tout couvrir, mais Seigneur, enseigne-nous ce matin avec ce que tu as toi pour nous maintenant ce matin. On s'en remet à toi, que tu puisses, Seigneur, te révéler à chacun des cœurs ici, comme toi seul peux le faire. Merci, Seigneur, que tu es digne de toute confiance, même quand tu envoies la tempête, et que tu es le Dieu qui non seulement transforme le mal en bien, mais peut même prendre le péché, la rébellion de quelqu'un, et que ça tourne au salut de ceux qui ne te connaissent pas. Donc, merci, Seigneur, pour ce beau chapitre. On prie que tu puisses vraiment nous guider dans ce temps ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on a les premiers versets qui nous introduisent un peu, puis je suis content qu'on puisse considérer ensemble dans le mois de février ce livre parce qu'il est riche en vérité, en leçons, et il souligne des thèmes vraiment importants, là, comme par exemple l'appel divin, l'obéissance de la foi, la souveraineté de Dieu, et sans oublier sa grande compassion et son amour pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde, on a ça. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose ici de Jésus, l'Évangile, parce que, tu sais, ici, comme le Juif se détourne de Dieu, ça l'amène les païens à se confier en Dieu, bien, c'est un peu ça, tu sais, les Juifs ont rejeté leur Messie, puis Dieu a ouvert la porte aux païens. Il y a quelque chose de prophétique au-delà de juste, ici, tu sais, le récit en tant que tel, et riche, c'est pour ça que je disais, on ne peut pas tout regarder, c'est tellement, on pourrait passer une série à faire plusieurs messages, mais vraiment, je veux qu'on regarde à travers le mois de février, chacun des chapitres, un par semaine, si Dieu le veut. Parce que, bien, évidemment, Jonas est un type de Jésus. Et c'est vraiment pas non commun, là, je veux dire, dans l'Ancien Testament, c'est plein de types de Jésus. Oui, par la symbolique que Jésus lui-même a dit, il dit, il ne sera, tu sais, il demandait un miracle venant du ciel, puis il dit, il ne sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Autrement dit, Jésus a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il y a tout ça qui est en arrière-plan. Mais aussi, il y a le fait que Jonas a prophétisé à une nation étrangère, donc il ne prophétisait pas à Israël comme la majorité des prophètes, puis qui a apporté un message de vie et de lumière là où il y avait la mort et les ténèbres. Nénive, là, c'était pas des enfants de cœur, c'était vraiment une ville méchante et très corrompue. Et Jésus a fait ça, n'est-ce pas ce que ça dit quand il a commencé son ministère, hein, que ceux qui étaient assis dans les ténèbres, hein, puis Zabulon, c'était dans les pires endroits. C'est là que Jésus a amené son message de lumière et de vie. Puis aussi, ben, comme Jonas a prêché la repentance, qu'est-ce que Jésus, on voit au début de son ministère, comme Jean-Baptiste d'ailleurs, il prêchait la repentance, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc beaucoup de parallèles, en fait, dans le dernier message de tout, si Dieu le permet, on va faire clairement les contrastes et les ressemblances entre Jésus et Jonas. Mais là, pour l'instant, je vous en introduis quelques-uns, juste comme ça, un peu pour mettre la table. Et dans ce premier message aujourd'hui, on va voir ensemble l'exemple, à travers l'exemple de notre prophète ici, que l'authentique paix, l'authentique liberté, la vraie vie, ne se trouve que dans l'obéissance de la foi. Lui qui pensait que ça allait être mieux en partant de l'autre bord, notre cher Jonas, et non. Parce que fuir la volonté de Dieu ne peut que mener à la mort. Et c'est le titre du message, « Fuir la volonté de Dieu », comme on voit ici. Et c'est le thème, ça va être le thème du mois par rapport à la volonté de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble simplement trois vérités fondamentales concernant la fuite de la volonté de Dieu. Dans les premiers deux versets, nous voyons que l'appel de Dieu est clair. On a lu les versets, mais je veux juste clarifier ici, quand je parle que Dieu appelle, je ne fais pas juste référer à un appel au ministère, OK, missionnaire ou pasteur. Je veux élargir le sens, parce que ça, c'est un sens valide et spécifique, mais je veux élargir le sens à celui plus général de l'appel de Dieu pour chacun de ses enfants, hein, que Dieu il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui le connaissent, ceux qui l'aiment. Donc, Dieu a un plan pour notre vie quand on est son enfant. Donc, je veux l'élargir à ça. Et d'abord, vous amenez deux tendances ou deux mauvaises réponses à l'appel de Dieu. Puis là, je dis appel de Dieu, là, vous n'avez pas le droit de rire. Puis là, je vais dire souvent appel de Dieu, OK? Appel de Dieu, pas l'appel. Parce que vous savez, nos deux ici, à toutes les fois, ils pensent que Dieu, il y a une pelle. Là, puis... Oh, les enfants, hein? Pas facile, les enfants. Mais il y a deux tendances mauvaises qu'on peut avoir en réponse à cet appel. D'abord, ceux qui ne l'acceptent pas. Ceux qui n'acceptent pas l'appel de Dieu, pourquoi? À cause de l'opprobre et la souffrance qui y est rattachée, puis aussi à l'incapacité, quand la personne voit son incapacité à répondre à cet appel. Par exemple, ici Jonas, évidemment. On peut penser aussi à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. « Ah non, je parle pas bien, je suis pas capable, puis tout ça. » Gédéon aussi. Hein? Dieu qui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » oui, mais, puis là, OK. Donc ça, c'est la première mauvaise tendance, OK, de ne pas l'accepter, en regardant à soi. La deuxième, s'y plonger à pieds joints, mais avec les mauvais motifs. Comme Moïse, avant qu'il aille dans le désert pendant 40 ans, là, « Oui, Seigneur, je m'occupe de ça. » Puis là, bon, ça n'a pas été bien du tout son affaire. Pierre, avant le reniement, « Ah, même si tous te renient, moi, je ne vais pas te renier. » Puis Dieu, je suis ton homme. Donc, soit regarder à soi en voyant sa faiblesse ou regarder à soi en ne voyant pas sa faiblesse, c'est regarder à soi pareil. Donc, l'appel de Dieu, c'est pas un appel à regarder à soi, puis Dieu dit pas « OK, toi, je t'ai vu, là, puis là, t'as tout ce que ça prend. » En fait, souvent, on prend des gens qui n'ont pas pantoute tout ce que ça prend, puis il dit « C'est parfait, t'es qualifié parce que je vais me glorifier de même. » Et donc, c'est les deux tendances. Puis moi, je dirais, dans mon témoignage personnel, je regarde à travers, tu sais, toutes les années. Je pense que j'ai peut-être un mélange des deux. Je sais pas pour vous, mais c'est ça. Donc ici, juste pour tirer une petite leçon en partant, le problème, c'est sûr que ce n'est pas avec la clarté de l'appel de Dieu, parce que c'était bien clair, OK? Et c'est plutôt le problème avec la réponse à cette clarté. C'est pas parce que c'est pas clair, c'est justement parce que c'est clair puis ça me tente pas de le faire. C'est là le problème, OK? Donc le problème, évidemment, n'est pas avec Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi qui fait un genre, on va dire, on va appeler ça un contrat avec son enfant où lui détermine les conditions et elles ne sont pas négociables. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. C'est pas parce qu'il est méchant puis il veut nous rendre misérables. Au contraire, c'est parce qu'il est bon puis il veut nous libérer. Il veut nous amener ce qui est bon, ce qui est libérateur. Et ici, là, il était clair puis aussi il était spécifique. Et, tu sais, il a pas dit « Ah, va dans une ville » puis tout ça. Avec Abraham, c'était moins clair. Il dit « Va quelque part », mais ça faisait partie de comment Dieu travaillait dans sa vie. Mais ici, il est clair. « Va à Ninive », puis là, tu sais, il dit « Cette grande ville, là, pour être sûr que tu te trompes pas », puis là, « Va là-bas, puis crie contre elle. » C'était clair ce qu'il avait à faire, puis c'était pas compliqué non plus. OK? C'était clair, net et précis. C'est un peu comme pour nous autres, c'est simple, Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça continue en disant le contexte de ça, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, c'est clair, Dieu nous appelle à prêcher sa parole, à être dans ce monde, le sel de ce monde, la lumière du monde, le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, je le répète, le problème n'est pas avec la clarté du côté de Dieu sur son appel, mais certainement avec nous et notre chair chère, qui nous fait souvent payer cher. Mais c'est vrai, là, c'est pas juste pour faire un jeu de mots, là, mais c'est OK. Pourquoi? Parce que la chair ne veut pas sortir de la zone de confort. La chair ne veut pas être dans l'inconnu, l'incompréhensible, l'illogique, OK? Et la chair, surtout, a de la misère à croire que la volonté de Dieu, effectivement, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Donc, le problème, c'est de l'orgueil et de l'incrédulité face à la bonté souveraine de Dieu. Et ça a tout à voir avec la perception que j'ai de Dieu. Comment je vois Dieu? Est-ce qu'il est bon ou pas tout le temps, pas vraiment? Est-ce que j'en doute? Puis ça, ça va aussi déterminer bien, quelle voix, puis V-O-I-X, quelle voix je décide d'écouter. La sienne, la voix de Dieu qui est en parfaite harmonie. Si vous êtes un enfant de Dieu, la voix de Dieu est en parfaite harmonie avec ce que nous sommes. C'est pour ça que ça dit « Amen » dans nos cœurs quand on chante des vérités comme on a chanté, quand on lit la parole, il y a une harmonie qui est là. Ce n'est pas dissonant, c'est harmonieux. OK? Parce qu'on est un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vit en nous est en harmonie avec la parole. Puis OK? Et donc, quand j'entends la voix de Dieu à travers ce que Dieu me dit dans sa parole, à travers les différentes circonstances, ça va avec ce que je suis. Hein? Je suis son ouvrage, c'est ce que ça dit dans Éphésiens 2. Puis aussi, avec ce que je désire profondément, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Quand on est un enfant de Dieu, on veut la volonté de Dieu. On désire ça profondément. Et donc, est-ce que j'écoute cette voix-là qui est en harmonie avec ce que je suis, ce que Dieu a fait de moi? Où j'écoute la voix de mon âme, de ma volonté, ma chair, là, qui est en contradiction. Okay? Quand je trouve en moi cette loi, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc j'ai le choix. Puis il y a ce moment décisif où est-ce que les deux sont côte à côte. Puis tu sais, Dieu met devant moi la mort et la vie. Il veut que je choisisse la vie. Et dans le fond, c'est ça ici, la voix de l'Éternel était claire, l'appel était clair, mais il a décidé de faire à sa tête notre cher Jonas. Et, tu sais, des fois, on veut essayer peut-être d'embellir la situation, minimiser nos fautes, minimiser nos torts, mais tout ce que Dieu nous demande, c'est juste d'aller à lui, nommer les choses telles quelles et de les confesser. Savez-vous ce que ça veut dire, confesser? C'est-à-dire dire la même chose que Dieu. Dieu dit, c'est un péché, c'est de la tromperie, tu te comptes des accroires, tu me vois pas comme je suis vraiment. Tu es orgueilleux, tu es incrédule. OK, Dieu, c'est vrai. En passant aussi, c'est bon de faire ça avec les autres. Je dis ça de même, là. C'est bon avec Dieu. La confession, c'est toujours bon. OK? Autrement dit, le point de départ, l'appel de Dieu est clair, c'est bon d'être clair, nous autres aussi, par rapport à toute résistance qu'on peut avoir à ça. Parce qu'on peut avoir de la résistance par rapport à la volonté de Dieu qui est claire, mais on peut résister. C'est la première vérité. L'appel de Dieu qui est clair. Le deuxième élément que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est au verset 3, la désobéissance est une rébellion. Là aussi, c'est clair. Puis là, regardez, ben, le verset 3, en fait, on le voit. Dieu a dit, va par là, puis c'est littéral. Okay? Ça, c'est Ninive par là. Mais lui, il va par là. OK? Tarsis, c'est à l'opposé. OK? Puis en plus, il paye pour. Fait que tu sais, quand on a la voie de la rébellion, là, c'est jamais gratuit. OK? Je vous dis, il y a toutes sortes de leçons, là, parce qu'on va en avoir d'autres aussi avec l'équipage, tout ça, mais bon. La désobéissance et de la rébellion. Puis là, pour être sûr qu'on ne prend pas ça juste dans le livre de Jonas, il y a tout qu'un passage que vous connaissez probablement, dans 1 Samuel, qui est pas mal un passage connu par rapport à ça. 1 Samuel 15, verset 22, nous dit, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel parlait à Saül. Puis en passant, Saül avait des belles excuses logiques et ben oui, c'est le peuple, là, tu sais, parce que là, on avait tout préparé, puis tout était beau, puis là, tu sais, j'avais comme pas le choix. Mais savez-vous quoi? Les excuses ne valent rien. D'ailleurs, il n'y a pas de sagesse, pas de conseil devant l'Éternel. Les excuses devant Dieu, ça ne marche pas. Et donc, la désobéissance est de la rébellion. Quand même qu'on essaye de rationaliser cette désobéissance ou redéfinir les termes, les conditions, ça ne marche pas. Parce que, savez-vous, tout ça, c'est la désobéissance, la rébellion, c'est profondément, et d'abord, c'est premièrement et profondément relationnel, ça a rapport avec Dieu. Puis, si j'essaie de me trouver des raisons, c'est en vain, parce que je suis devant Dieu, puis j'essaie de me trouver un justificatif devant celui qui connaît tout, qui est le seul sage, puis, autrement dit, il dit en anglais, « I don't have a leg to stand on ». Comment on dit ça en français? J'ai pas de jambe sur laquelle me tenir. Mais ça se dit pas en français, mais bon. C'est une expression qui se traduit pas vraiment. OK, mais je vous donne une illustration. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un qui me dit, j'ai de la misère avec l'usage de mon temps. Êtes-vous ces genres de gens qui ont de la misère à discipliner l'usage du temps? OK. Donc là, je vous condamne, et là, c'est votre moment. Là, c'est le moment que vous sentez mal, puis... Non, mais sérieusement, on a tous des problèmes, on n'a pas toutes les mêmes. Il y a des gens qui ont vraiment de la misère avec ça. Puis ils me demandent conseil, tu sais, de la misère, j'arrive en retard, de la misère avec la gestion de mon temps, puis tout ça. C'est en général. Fait que là, il dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Puis c'est drôle, parce que j'ai fait une genre de prière à la Néhémie. Hey, Seigneur, c'est quoi que j'ai conseillé? J'avais pas quoi dire, moi, tu sais. Parce que moi, c'est pas, j'ai d'autres problèmes, mais ça, c'est pas un problème que moi j'ai. Parce que, tu sais, ouais, c'est le même, là, je veux dire. Fait que je l'ai pas regardé de haut puis dire que t'es donc ben pas bon puis tout, mais c'est rien que si j'ai dit, tu sais, parce que moi, je suis comme pas quelque chose que j'ai moi-même, tu sais. Pour moi, je suis pas quelqu'un qui est du type ben tartare puis tout ça. Puis, comme je vous dis, j'ai d'autres problèmes, mais pas celle-là. Puis Seigneur m'a juste donné cette pensée-là. C'est relationnel. J'ai dit, pense à ça, la gestion de ton temps, est-ce que t'appartiens ou est-ce soumise à Dieu? C'est-tu ton temps ou c'est celui du Seigneur? Fait que voilà comme étant ta relation avec Dieu. Tu sais, quand tu décides de faire ça ou de ne pas faire ça, ou que tu ne décides pas puis tu laisses aller, c'est le reflet de comment tu es en relation avec Dieu par rapport à ça. Puis là, évidemment, on peut faire... Ça, c'est l'emploi du temps. Là, c'en est juste un exemple. Mais tellement de choses, on peut voir, en fond, ça rapport à ma soumission avec Dieu. Puis là... C'est là qu'on est bon, puis on dit, ben moi, je suis gars. On va reprendre l'exemple du temps. Ben, j'ai jamais été quelqu'un d'organisé là. Puis, OK, on peut se trouver toutes sortes d'excuses, mais aussi, si j'arrive face à Dieu, puis que c'est un problème, OK, Dieu, j'arrête les excuses, puis je fais à ma tête, je t'habitue de même, mais là, je veux me soumettre à toi. Je veux te faire, je veux expérimenter ta grâce là-dessus. Parce que je pense que t'es capable. T'es capable de me donner la victoire sur ça. Puis là, j'ai donné l'exemple du temps, ça peut être par rapport à l'habitude de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche. OK? Parce que aussi, on peut dire, ah, j'ai tout le temps été de même. Moi, je suis quelqu'un qui met les pieds dans les plats parce que j'ai trop dit d'affaires ou j'écoute le commérage que je devrais pas ou je regarde où je devrais pas. Tu sais, là, on peut aller vraiment vaste dans les applications de ce que je dis là, mais le principe demeure. C'est relationnel avec Dieu. Et Dieu n'accepte pas les excuses. Et il est clair, la désobéissance, c'est de la rébellion contre moi. Dieu prend ça personnel, autrement dit. Un autre exemple, ici, on a Jonas, mais. Lorsque Moïse n'a pas parlé au rocher, Là, il y avait toute une symbolique là-dedans par rapport à la croix la première fois, puis la résurrection la deuxième, mais il s'est mis en colère contre le peuple, là, il les a, tu sais, réprimandés. Puis il avait raison, Moïse, parce que le peuple était vraiment dur à vivre, puis tout, puis moi, ça fait longtemps que j'aurais pogné les nerfs bien avant, là, si j'avais été dans la place de Moïse. Mais Dieu n'a pas dit, « Moïse, t'as un problème avec la colère, calme-toi les nerfs, puis on va travailler sur ta colère. » C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, « Tu m'as pas sanctifié. » Il a pris ça personnel, il dit, « Devant le peuple, tu m'as pas montré comme je suis. » Autrement dit, sa rébellion, là, c'était pas, « Ah, oh, là, tu sais, t'es colérique. » Il a dit, « Non, non, je prends ça personnel, là. Vu que tu n'as pas fait ce que j'ai fait, là, c'est moi que tu n'as pas présenté comme je suis au peuple. » Puis c'est ça qu'il faut qu'on voit. Notre rébellion a quelque chose de relationnel avec Dieu, puis nous met en communication ou brise cette communication avec Dieu. Ça brise, it makes or break. Ça me pogne tout le temps, ça, des affaires de penser en anglais. Rien qu'un cerveau, puis il y a comme deux tracts comme ça qui se mélangent l'une l'autre. Ça passe ou ça casse? Merci, M. Bertrand. Et donc, c'est ça. Et là, évidemment, savez-vous qu'on a, nous autres, souvent, le don, on est plus subtil que Jonas. Tu sais, Jonas, c'est vraiment pas subtil, là, tu sais. Va par là, puis va à l'autre bord, là, tu sais. Nous, au moins, tu sais, on est moins fier que Jonas, on est plus subtil. C'est mieux. Quand t'es plus subtil, ça veut dire que c'est mieux, hein? Vous comprenez mon point? Même si on ne va pas carrément dans la direction opposée, on peut avoir la même motivation, c'est-à-dire je veux faire ma volonté et non pas la tienne. Puis justement, c'est encore pire quand on se trompe avec la subtilité, puis c'est pas aussi évident que ça. C'est encore pire parce que c'est plus trompeur. Puis on peut même peut-être se penser un peu bon ouais, en passant. Hey, moi, je suis pas aussi pire que Jonas au moins. Mais Dieu il dit, ta désobéissance est tout autant une rébellion. Elle paraît belle à tes yeux, mais à mes yeux, c'est quand même une rébellion. Et c'est pas plus acceptable. Parce que l'idée, c'est mettre ma volonté au-dessus de celle de Dieu. Évidemment, là où les raisons peuvent être différentes, ben, même rébellion, mais pour Jonas, bon, il y avait des préjugés. Ben, il compte ce peuple-là, puis tout ça, puis aussi comment il voyait Dieu. Puis il y avait des peurs parce qu'il savait que Dieu pouvait prendre ce peuple-là pour châtier Israël qui était dans la rébellion. On connaît toutes les histoires comme ça, ce qu'il va avec. Mais pour nous autres, les raisons, ça peut être on a peur, on est lâche, on ne veut pas s'en remettre à Dieu, on a des raisons logiques ou des blessures émotionnelles. On peut avoir 100 000 raisons de faire à notre tête. Est-ce qu'elles valent? Non. Fait que c'est pas l'idée, c'est quoi la raison? Parce que ça diffère autant qu'il y a personne, dans le fond. L'idée, à la base, c'est ma volonté ou la tienne? C'est pour ça qu'il faut arriver à dire, OK, peu importe c'est quelle forme que ça prend, quelle couleur, quelle expression ça peut prendre, la base, c'est que la désobéissance, c'est de la rébellion. Vous pouvez l'envelopper dans l'emballage que vous voulez, ça revient au même. Pour Dieu, c'est le même produit. Puis Dieu déballe, puis il voit jusqu'au bout, OK? Et donc, peu importe la justification qu'on a, et nous en avons tous, l'être humain a cette capacité assez exceptionnelle, est capable de justifier tellement d'affaires, puis se trouver des bonnes raisons logiques à être désobéissant, méchant et patati patata. Il faut en arriver à la conclusion, à la conviction profonde que non, devant Dieu, c'est de la rébellion. C'est moi qui veux ma volonté au-dessus de celle de Dieu. C'est l'inverse de ce que Jésus a dit dans le jardin. Puis sinon, il y avait bien des raisons de ne pas aller à la croix parce que c'était pas juste, il ne méritait pas, c'était Jésus. Il a dit, non, pas ma volonté, mais la tienne. Et les enfants de Dieu, on peut facilement voir cette rébellion, des fois, chez ceux qui ne sont pas sauvés. Ou des enfants. Tu sais, c'est moins subtil, c'est moins poli. Mais est-ce que nous, on voit nos tendances à la rébellion? Là, c'était le côté négatif, c'est le côté réaliste pour voir le problème. Et on a ça dans les trois premiers versets. Mais là, on va lire le reste de l'histoire. Puis comme je l'ai dit ce matin avant qu'on prie, le personnage principal de Jonas, du livre de Jonas, ce n'est pas Jonas, c'est le Dieu de Jonas. Et donc j'aimerais qu'on regarde le Dieu de Jonas, comment il agit à travers cette tempête qu'il envoie. On va le lire pour en tirer quelques leçons. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et se leva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. » Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. » Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prièrent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Quelle tournure de situation pareille! Le troisième point dans les versets qu'on vient de lire, c'est que Dieu est fidèle à sa volonté et à son plan. Oui, on avait un appel clair qui a été désobéi clairement. Oui, on avait la rébellion du prophète, mais Dieu, lui, était fidèle à sa volonté et à son plan. Sa volonté de sauver les perdus, parce qu'à travers ça, les mariniers ici ont été sauvés. Et évidemment, son plan envers le prophète qui dit « Mais pas fini avec lui ». En fait, ça commençait l'histoire. On voit dans ces versets-là la bonté, la fidélité de Dieu qui ne laisse pas son prophète s'auto-détruire et s'égarer. C'est pareil pour nous, hein? La Bible nous dit que si nous, on n'est pas fidèles, Dieu demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier de lui-même. Mais plus précisément, ici, on voit trois moyens de grâce. Dans le texte qu'on vient de lire, on voit trois moyens de la grâce de Dieu dans sa fidélité envers ses enfants. D'abord, on voit sa puissance invincible, qui est représentée par la tempête, évidemment, là, qui illustre la volonté souveraine de Dieu. Ça dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, OK? Dieu a décidé ça, OK? Puis c'est vrai sur la nature comme ici, mais aussi sur toutes les affaires des hommes. Vous savez, si on parle de politique, là, savez-vous que dans l'histoire, Dieu s'est impliqué autant dans la nature, c'est pas juste un Dieu de la nature, aussi dans les affaires des hommes. Ça dit dans la Bible qu'il élève un roi, il en abaisse un autre, puis il met un. Puis tu vois aussi dans la Bible, Nebuchadnezzar, c'est moi qui l'envoie, puis je vais prendre Cyrus, puis je vais faire ça avec lui. Puis Dieu est souverain sur tout, tous les aspects de nos vies. Rien ne peut lui résister. Et ça, c'est M. Nebuchadnezzar lui-même qui l'a dit, qui se pensait donc bon, il se pensait donc le grand roi de la terre. Puis Dieu a fait savoir que non, non, je suis au-dessus de toi. Et il l'a appris, il l'a confessé, il l'a accepté. Je m'attends à voir Nebuchadnezzar au ciel. Il s'est converti. Ben, c'est Dieu aussi qui envoie les tempêtes et les calomnies dans nos vies. Eh oui, parce que là, on a ça. Je vais vous l'appuyer doctrinalement avec Lamentations. Chapitre 3, verset 34 nous dit « Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? » C'est toute cette injustice, justement, les gens qui disent « Ah, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a toute cette souffrance? » Ok, donc, il pose cette question. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? » Donc oui, Dieu permet ces choses, mais en même temps, il n'est jamais l'auteur du mal. Ce n'est pas lui qui nous fait pécher, ce n'est pas lui qui nous incite à ça. En fait, écoutez, les versets qui précèdent ça, ça nous aide à comprendre l'esprit dans lequel Dieu agit. « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. » Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Donc, Dieu n'est pas là à vouloir nous faire du mal, pas nous dire, vous êtes donc bien des pas bons, puis tout ça. Il laisse les choses aller pour qu'on puisse se confier en lui là-dedans. Dieu est toujours et n'est que bon dans sa souveraineté bienveillante. Notre part, c'est de croire à ce qu'il est, malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on ressent, et ce qu'on peut comprendre des événements, parce que des fois, on a une façon d'interpréter les événements qui n'est pas juste parce que nous sommes biaisés. Donc, par défaut, soyons ceux qui croient que Dieu n'est que bon, qu'il est bon en toutes choses, en tout temps. Première chose, sa puissance invincible. Mais aussi sa puissance révélatrice, parce que cette fameuse tempête a révélé l'état spirituel de Jonas, non seulement à l'équipage, mais aussi à lui-même. Et c'est quand même ironique que les mariniers ici étaient de meilleurs exemples de confiance en Dieu puis de dévouement à l'Éternel, eux qui étaient des païens, si on les compare à Jonas. Je vous dis, il y a quelque chose de prophétique là-dedans, parce que c'est comme les Juifs, ils sont donc bien là à comprendre, puis les païens qui se tournent vers Dieu, il y avait quelque chose de prophétique par rapport à l'époque de l'Église dans laquelle nous sommes. Mais on ne va pas aller là, ça serait trop long. Mais savez-vous quoi? Pour nous, l'épreuve a ce don. L'épreuve est un cadeau merveilleux et ineffable pour nous révéler, nous, à nous-mêmes. Avez-vous déjà ces moments-là où est-ce que vous dites, « Ouais, je me pensais comme ça. » Puis à travers ce que j'ai vécu, « Ouais, finalement, je ne suis pas aussi bon que je pensais. Je ne suis pas aussi fort que je pensais. Je ne suis pas aussi sage que je pensais. » Puis souvent, comment qu'on l'apprend? Assis sur un banc d'église parce qu'il y a un message. Ça peut être d'une manière de laquelle on apprend, mais souvent, on l'apprend par l'épreuve, par l'échec. C'est ce que j'appelle la grâce de l'échec. Dieu, quand il nous laisse échouer, c'est pour que sa puissance révélatrice nous montre, nous, à nous-mêmes, qu'on se voit aller, qu'on arrête de se compter des mentries sur nous-mêmes. C'est précieux et c'est salutaire. Le fameux reniement de Pierre, c'était ça. Pierre se pensait bien capable, puis il était très sincère. Il a sorti l'épée devant la cohorte. C'est-tu 500? Hey, 500 soldats! Lui, il est là avec sa petite épée. Il était vraiment sincère. Mais il avait besoin de voir que Pierre, la chair, ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et comme je disais tantôt, la tromperie, se tromper nous-mêmes, c'est vraiment fort. On peut tellement aller loin là-dedans, mais Dieu brise cela par l'épreuve, par sa tempête. Dieu a sa puissance révélatrice de nous montrer la vanité de nos raisonnements, de nos tromperies, de nos raisonnements humains. Puis en passant, c'est pas juste mauvais pour nous autres quand on se trompe nous-mêmes, quand que, tu sais, si Dieu ne nous révèle pas nous à nous-mêmes, c'est aussi mauvais pour les autres. Regardez, là, l'équipage au complet était en péril, là. Quand on laisse pas Dieu nous humilier, faire son œuvre de grâce à travers ce qu'il nous envoie, c'est pas juste mauvais pour nous autres, les autres aussi en payent le coup. Parce que l'effet de l'attitude de Jonas était sur toutes les autres. Mais on voit aussi dans la tempête et les événements qu'on a vus là, non seulement sa puissance invincible, sa puissance révélatrice, mais aussi sa puissance délivrante. Parce que, oui, Dieu avait des choses à révéler sur lui, puis à révéler à Jonas sur lui-même. Mais aussi, il voulait le délivrer de ça. Il ne voulait pas juste dire « Ah, t'as vu, t'es donc bien pas bon, puis c'est à cause de toi que tout ça arrive. » Non, il voulait opérer une délivrance. Et c'est quand même un moyen inusité, là, OK? Parce que on sait qu'il y a un poisson là, qui est venu là, au début du chapitre 2. Là. Tout le monde connaît l'histoire du poisson, là. Parce que Dieu n'opère pas ses délivrances selon comment nous, on opérait la délivrance. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Par exemple, Dieu va nous délivrer des choses qui nous font peur. Mais tu sais, quand je dis peur, là, tu sais, des peurs profondes, là, des choses qu'on fige à ça, là, OK? En nous exposant à ces peurs. Hey Dieu, moi je voudrais qu'il n'y ait plus ça dans ma vie. Je dis, oui, mais je vais te mettre face à ça pour que tu expérimentes ma délivrance. Je te mets face à ça pour que tu vois que moi, je suis capable de te délivrer. Tu as essayé toutes ces années, là, je te mets devant pour que tu expérimentes c'est quoi ma délivrance. L'amertume. Hey, je suis tellement blessé avec cette personne-là. Dieu, je ne voudrais plus y penser. Je voudrais mettre ça dans un coin puis plus jamais voir ça de ma vie. Puis là, boum, Dieu nous met ça en pleine en face. Puis même des fois, d'une façon qu'on l'avait même pas expérimenté. Puis, hey, Dieu, comment ça tu fais ça? Parce qu'il va opérer sa délivrance. Parce que là, on voit que la chair ne sert à rien pour qu'on expérimente par nous autres la délivrance de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc, la provision de Dieu a redirigé Jonas dans sa volonté, vers sa volonté. Parce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, là. Dieu était plus persistant à délivrer Jonas que Jonas l'était de fuir l'Éternel. On a ça dans le cantique. « Quand je pêche, quand je fuis, il me poursuit. C'est le berger de mon âme. » Dieu poursuivait Jonas. Dieu était bon. Pour ça, je vous dis, le héros de l'histoire, là, c'est Dieu. Qui ramène son prophète, qui sauve les perdus, c'est wow! C'est comme Dieu sur toute la ligne. On n'a rien qu'un chapitre de fête, mais wow! Quel Dieu! Quelle illustration de là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, autant dans la vie des mariniers que dans la vie de son enfant, de Jonas le prophète. Wow! Quel Dieu extraordinaire! Et donc, je suis rendu à conclure avec ceci. Vous savez pourquoi? Vous le savez, là. On ne peut pas échapper à la volonté de Dieu. On ne peut pas. Je veux dire, Dieu est tout puissant, il est souverain. Puis, qu'est-ce que Jonas nous enseigne? On ne peut pas. Parce que même nos détours font partie de son plan. Parce que Dieu l'a laissé aller. Tu sais, moi, je racontais ça aux jeunes quand j'étais à Sherbrooke. Au début de mon salut, là, j'ai fait un détour. Là, je pensais faire un bargain avec Dieu, puis tout. Puis ça n'a pas marché pendant tout, mais Dieu l'a permis pour vraiment faire quelque chose de beau, parce que c'était le détour que Dieu m'a laissé prendre pour que j'expérimente dans ma propre peau. Ouais, Dieu, tu sais pas mal mieux que moi comment vivre la vie chrétienne. Quand tu dis quelque chose, tu as tout le temps raison. Il fallait que Dieu me le montre. J'étais pas mal insensé, mais j'étais un petit nouveau chrétien qui comprenait vraiment pas grand-chose à la vie chrétienne, justement. Dieu était bon. Puis c'est ça que Dieu encore, il fait. Lorsqu'on prend des détours, c'est Dieu qui nous amène finalement, lorsqu'on est son enfant, à accomplir sa volonté, ses plans. Puis, la voie de la désobéissance est claire, c'est la voie de la mort. Le danger, la tromperie, la déception. Tu sais, être déçu, là, pas deception en anglais, là, mais on va être déçu là, quand on prend notre propre voie. Mais la vraie délivrance, la vraie liberté se trouve dans la repentance puis la soumission à Dieu. Et Dieu le promet. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. » Et il vous élèvera. Donc, j'ai deux questions pour terminer. Première, es-tu un Jonas du salut? Es-tu un Jonas que Dieu poursuit pour le sauver, pour lui donner la vie, mais tu ne crois pas encore que Jésus est ton plus grand besoin? Soumets-toi à l'Évangile. Gloire à Dieu pour notre frère qui s'est soumis à l'Évangile. Amen. Ça a-tu fait mal? Puis la récompense est grande. Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, soumettez-vous à l'Évangile. Et pour les sauver, es-tu un Jonas de la sanctification? Que Dieu poursuit pour délivrer de toi-même, de ta chair, de tes patterns, de tes façons de faire, qui ont toujours été les mêmes et qui n'ont jamais amené de délivrance. Parce que Dieu veut te donner la vie abondante, mais tu ne crois pas qu'il est ton plus grand bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Et si c'est toi ce matin, enfant de Dieu, soumets-toi à l'Évangile, au Saint. Parce que non seulement Christ est mort pour toi, mais tu es mort avec Christ. Est-ce que tu vis comme si tu étais mort? Mort au péché, vivant pour Dieu. Amen. On te remercie, Seigneur, de ce qu'on a pu s'arrêter ce matin avec ce récit historique. Ce n'est pas une fable habilement conçue, c'est la vérité. Oui, ces choses sont arrivées. Et la Bible nous dit, elles sont arrivées pour notre instruction. Oh, et on a tellement à retirer de cette histoire qu'on a commencé ensemble aujourd'hui. Et donc, ma prière ce matin, c'est que tu prennes ce texte béni qu'on a considéré ensemble, on pourrait dire effleurer la surface, mais Seigneur, que tu accomplisses tes plans personnels, bienveillants dans la vie de chacun ici. Que ce soit pour arriver au salut ou pour grandir en Christ. Seigneur, accomplis tes desseins bienveillants. On t'invoque, Seigneur, on regarde à toi. Merci pour les tempêtes. Merci pour la grâce de l'échec. Merci pour ta puissance invincible. Tu es souverain. Nul ne peut te résister. Merci pour ta puissance révélatrice. Tu nous montres nous-mêmes à nous-mêmes afin qu'on arrête de se tromper puis se faire des accroire. Oh, mais aussi, merci pour ta puissance libératrice. Tu ne nous laisses pas dans la stupeur et dans l'esclavage. Merci que tu es le grand libérateur. On t'invoque, Seigneur. Accomplis tes plans bienveillants. On te le demande au nom de Jésus. Amen.